d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Diagne en direct, il est 17h30 en universel. Voici les titres de ce jeudi soir. Le président congolais Joseph Kabila maintient le suspense sur sa candidature. Dans un discours très attendu devant le Parlement réuni en congrès, il a réaffirmé la tenue des élections en décembre.
Le cap de troisième consultation électorale fixée en décembre prochain reste donc maintenu.
Procès de djihadistes au Sénégal, le tribunal prononce des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire fixées au 13 octobre. Et le président russe Vladimir Poutine estime qu'il y a des forces aux États-Unis qui tentent de sacrifier les relations entre les deux pays. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. On démarre au Cameroun où 4 soldats ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo devenue virale montrant de présumés membres de l'armée exécutant sommairement 2 femmes et leurs 2 bébés accusés d'être des djihadistes de Boko Haram. Les faits se seraient déroulés dans l'extrême nord du pays. Nous y reviendrons plus en détail avec notre correspondant au Cameroun. Je vous le disais en titre, Joseph Kabila s'est exprimé à Kinshasa devant le Parlement réuni en congrès, un discours souverainiste qui maintient toujours le doute sur son avenir politique. Lui qui est arrivé en fin de mandat depuis décembre 2016 et qui à qui la Constitution ne permet pas de briguer un autre mandat. Retour sur ce discours avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans un discours d'environ 50 minutes, Joseph Kabila a quasiment dressé le bilan de ses 17 ans au pouvoir. Dans les domaines économiques, éducationnels, sécuritaires, social comme politique, le président de la RDC a rappelé chiffres à l'appui d'où il avait pris le pays et où on en est aujourd'hui, saluant à chaque fois des avancées significatives réalisées suite aux réformes qu'il a pilotées. Très attendu au plan politique, Joseph Kabila a réaffirmé la tenue des élections en décembre prochain, des élections qui, selon lui, seront désormais entièrement financées par l'État congolais, étant une affaire de souveraineté, a-t-il souligné. Le Congo n'ayant jamais donné des leçons de démocratie à personne, n'est pas disposé à en recevoir de qui que ce soit, surtout pas de ceux qui ont assassiné la démocratie ici en RDC et en Afrique, a-t-il martelé. Déception par contre pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il se prononce clairement sur son avenir politique. Joseph Kabila s'est juste contenté de rappeler son engagement à respecter la Constitution qui ne lui permet pas de briguer un troisième mandat consécutif et a appelé à la vigilance et au patriotisme de la classe politique afin que, je cite, les prochaines élections ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Fin de citation. Kinshasa. Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et je vous propose justement un extrait du discours du président Kabila qui réaffirme ici la tenue du scrutin pour le mois de décembre et s'engageant également à respecter la Constitution. On l'écoute.
Le cap de troisième consultation électorale fixé en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte. Et je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais.
Le président congolais Joseph Kabila. Au Sénégal, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné à 20 ans de prison le principal accusé dans le procès de 29 djihadistes présumés. 14 d'entre eux ont été acquittés. L'imam Aliou Ndao a lui été condamné à une peine très légère et on fait le point avec Claire Morin-Jubourg.
Le verdict de ce procès placé sous haute sécurité est tombé. Makhtar Diokané, décrit comme l'idéologue du groupe, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Mais l'imam Aliou Ndao, accusé d'en être le coordinateur, a été condamné à un mois de prison avec sursis. Le procureur avait requis 30 ans de prison à son encontre. Son avocat Moussa Sarr se félicite de ce verdict. L'avocat de Makhtar Diokané, Alassane Cissé, a lui indiqué qu'il allait faire immédiatement appel. Il était reproché aux 29 prévenus, dont certains avaient séjourné dans des zones contrôlées par Boko Haram, d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud et le sud-est du Sénégal et d'avoir envisagé ensuite d'étendre leur projet à des pays voisins tels que la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau.
Une personne a été tuée, 4 blessés au cours de combats survenus dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier musulman du PK5 de Bangui, la capitale centrafricaine. Le corps de l'homme décédé a été déposé à la mosquée Ali Babolo du PK5 et les 4 blessés admis pendant la nuit dans différents hôpitaux de la ville. Ce jeudi, le calme est revenu dans la capitale centrafricaine. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont été tué 6 civils dans une embuscade tendue à un convoi de transport de marchandises escorté par l'armée dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a déclaré un membre d'une milice civile engagée aux côtés de l'armée nigériane. Selon lui, les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi de 23 véhicules, l'obligeant à s'arrêter avant de piller des marchandises et d'incendier des camions. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales auront lieu le 13 octobre, c'est ce qu'a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Cette annonce survient 3 jours après le lancement du parti unifié par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'Éthiopie a nommé aujourd'hui un ambassadeur en Érythrée pour la première fois en 20 ans, une annonce qui intervient 3 jours après la réouverture de l'ambassade érythréenne à Addis Abeba. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda a remporté le plus grand nombre de mairies à l'issue des premières municipales démocratiques de Tunisie, soit 130 mairies. Le point avec Nicolas Pinot.
Oui, ce succès aux élections est symbolisé par la victoire à Tunis de Souad Abderrahim, devenue au début du mois la première femme maire de la ville. Ennahda est aussi majoritaire dans le gouvernorat de Sfax. Au total, Ennahda remporte donc un peu moins du tiers des mairies disputées. Les listes indépendantes arrivent en deuxième position avec 114 mairies, juste devant Nida Tounes, fondée par l'actuel président Béjika Idessebzi, qui a remporté 80 municipalités. Ce scrutin a été marqué par une forte abstention et selon l'ONG Al-Basala, qui évalue le travail législatif depuis la révolution de 2011, 20% des maires tunisiens sont désormais des femmes, à la faveur d'une loi électorale exhortant à la parité dans l'esprit de la constitution de 2014. Ces élections devraient aussi permettre d'ancrer la démocratie au niveau local et pour les partis de renforcer leur ancrage dans les différentes régions, alors que l'année 2019 doit être marquée par la tenue d'élections législatives et présidentielles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump s'est dit impatient de retrouver Vladimir Poutine pour une deuxième rencontre, martelant que leur sommet lundi à Helsinki avait été un grand succès. Reste à Gironde.
Dans un tweet, le président américain a rappelé que le sommet avec la Russie a été un grand succès, sauf pour le vrai ennemi du peuple et les médias fake news. Il a ajouté attendre avec impatience sa deuxième rencontre avec Poutine pour pouvoir commencer à mettre en place certaines des choses dont ils avaient parlé. Fait remarquable, Poutine avait quelques heures plus tôt lui aussi dénoncé les critiques visant Trump, stigmatisant les forces aux États-Unis prêtes à sacrifier les relations russo-américaines à leurs ambitions. Plaidant pour un renforcement des contacts entre les deux grandes puissances nucléaires, le maître du Kremlin a notamment rappelé que le traité de réduction du nombre d'armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis, le New START, devait expirer en 2021. Selon un sondage CBS News publié ce jeudi, seul un tiers des Américains approuvent la façon dont Donald Trump a géré le rendez-vous d'Helsinki. Cependant, dans le camp républicain, le taux d'approbation monte à 68%.
Le Monténégro a riposté aux propos de Donald Trump qui a déclaré qu'il ne voyait pas pourquoi il enverrait les troupes américaines se faire tuer dans ce pays en vertu des accords de l'OTAN. Doté d'une armée de moins de 2000 hommes, le Monténégro a rétorqué en estimant qu'il contribuait à la paix et à la stabilité, non seulement sur le continent européen, mais aussi dans le monde entier, notamment aux côtés des soldats américains en Afghanistan. La police britannique pense avoir identifié les suspects de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergei Skripal et de sa fille Yulia. Pour elle, les suspects sont des Russes. La police dit que les enquêteurs ont comparé les images avec des caméras de surveillance avec les dossiers des personnes qui sont entrées dans le pays à cette époque. Ils sont sûrs que les suspects sont russes, a ajouté une source policière. Moscou a toujours nié toute implication dans cette attaque. Les Émirats arabes unis et la Chine ont signé deux accords, l'un pétrolier et l'autre commercial, avant une visite ce soir du président chinois Xi Jinping à Abu Dhabi. La compagnie publique Abu Dhabi National Oil Co. a attribué deux contrats d'une valeur de 1,6 milliard de dollars à la BGP Inc., une filiale de China National Petroleum, pour une étude sismique 3D. L'opérateur portuaire DP World avait annoncé plus tôt un accord avec la Chine pour une zone commerciale à Dubaï. Et puis, l'ex-président brésilien Lula da Silva accuse le pouvoir de vouloir le museler. On dirait que m'emprisonner ne leur suffit pas, ils veulent me faire taire, a affirmé l'ex-chef de l'État, incarcéré depuis avril pour corruption, dans une tribune publiée ce jeudi dans un journal de Sao Paulo. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle tout de suite dans la Minute Éco avec Eric Manerakiza.
La Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, a revu à la hausse ses prévisions de croissance dans l'espace CEMAC qui regroupe 6 États. Il s'agit du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Pour l'année 2018, le taux de croissance est projeté désormais à 2,5% contre 1,9% initialement. La hausse de la production pétrolière et la reprise de l'activité économique mondiale vont favoriser ces résultats. Le négociant français en bois Rougier a annoncé la vente des filiales de sa branche Afrique au Cameroun et en Centrafrique. Le tribunal de commerce de Poitiers a autorisé un redressement judiciaire. Cette opération permet au groupe de rationaliser son portefeuille d'activités et estime pouvoir poursuivre son recentrage géographique dans de meilleures conditions. Le chiffre d'affaires 2017 affichait une baisse de 7,5% sur plus de 149 millions d'euros de 2016. Airbus et Boeing ont engrangé une pluie de commandes au salon aéronautique au Royaume-Uni. Ces commandes représentent un total cumulé de plus de 150 milliards de dollars et avec un avantage pour le géant américain, le groupe européen a annoncé avoir signé des engagements pour 70 milliards de dollars au prix catalogue. Le groupe américain a annoncé les commandes au prix catalogue d'environ 92 milliards de dollars.
Présent la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Bakambu s'illustre d'entrée avec son nouveau club.
Après deux mois d'interruption, le championnat chinois a repris hier et l'international congolais a montré qu'il n'a rien perdu de ses qualités pendant les vacances. Cédric Bakambu a ouvert le score contre Henan et contribué à la victoire 2-1 de Beijing Guoan, actuellement leader.
En Europe, Liverpool est tout près d'engager Alisson.
Et oui, l'international brésilien Alisson devrait signer un contrat de 5 ans avec les Reds d'un montant de 75 millions d'euros. D'après le journal Liverpool Echo, une annonce officielle devrait être faite dans les 24 ou 48 heures, ajoutant que le gardien de but a interrompu ses vacances pour se rendre à Liverpool afin de passer la visite médicale. En cas de transfert, Alisson battra le record pour un gardien détenu par son compatriote Ederson, passé du Benfica à Manchester City pour 40 millions d'euros l'été dernier.
Benjamin Pavard, lui, est tout proche du Bayern.
Oui, le défenseur français de Stuttgart a signé durant le mondial un contrat pour rejoindre le Bayern Munich en 2019. Mais désormais, les Bavarois négocient pour que le français rejoigne le Bayern Munich dès cet été. Benjamin Pavard dispose dans son contrat actuel d'une clause de sortie dès 2019 pour 35 millions d'euros.
Pas de révolution pour Luis Enrique.
Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Espagne a promis qu'il ne va pas opérer une révolution dans le style de jeu de la Roja après trois déceptions consécutives lors des compétitions internationales. Écoutons Luis Enrique.
Je pense que nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais ça ne sera pas une révolution. C'est un mot que je n'aime pas, mais il y aura une évolution. Il y aura certes des changements, mais ça ne sera pas simplement parce qu'un joueur a 30 ans qui ne viendra pas avec nous. Je ne me préoccupe pas de l'âge, je me soucie uniquement de la performance.
Luis Enrique, l'Espagne éliminée au Mondial russe en 8e de finale par la Russie, n'a plus passé ce stade d'une compétition internationale depuis 2012 et sa victoire à l'Euro.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les membres du Parlement et du Sénat réunis en congrès. Dans son intervention, le président congolais a abordé plusieurs aspects importants de la vie socio-économique et politique de son pays, mais il n'a pas dit s'il se représenterait ou non. Pour une réaction, John Lyndon a joint Henri-Désiré Zouzi, il est consultant et analyste politique.
Une allocution classique qu'il a répétée à quelques mots près les discours sur l'état de l'Union qu'il avait l'habitude de prononcer. C'est un discours sans surprise qui s'inscrit tout simplement dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à présent.
La RDC présentée par le président Joseph Kabila se porte plutôt bien, notamment sur le plan économique. Est-ce que cela se reflète dans le quotidien des populations?
Disons que c'est une vision quelque peu idyllique, voire excessive de la situation. On sait que depuis de très nombreuses années qu'il y a une répartition inéquitable des fruits de la croissance, puisqu'on nous a annoncé des taux de croissance flatteurs, mais il faut bien remarquer que la paupérisation des populations n'a pas cessé depuis lors. Je pense que là, le trait a été quelque peu forcé, et donc à ce niveau-là, je préférerais tempérer les propos du président de la République.
Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le président Kabila se prononce clairement sur la prochaine élection présidentielle du 23 décembre, et notamment sur son éventuelle candidature. Est-ce que cette attente a été satisfaite ou pas?
Non, cette attente n'a pas été satisfaite. Je dirais très simplement que le président a raté le coche. En tout cas, il a raté une opportunité d'entrer dans l'histoire. Il s'est plutôt renfermé dans son discours. C'est d'autant plus triste qu'il aurait pu au moins annoncer des mesures de décrispation politique, ce qu'il n'a pas fait. Je crains que ce discours n'ait des conséquences potentiellement incalculables.
Il ne sera pas candidat ou il le sera à votre avis?
La difficulté de Joseph Kabila aujourd'hui pour se déterminer, en fait, tient du fait qu'il n'a pas envie de pouvoir désigner un dauphin, de crainte que cela n'alimente une guerre de succession au sein de sa propre famille politique et que cela donc affaiblisse sa position. Il joue donc sur le temps. Il n'est pas exclu que dans les prochains jours, il y ait néanmoins des décisions qui soient prises, mais qui impacteront nécessairement sur le calendrier électoral. À titre personnel, je m'attends néanmoins, malgré les garanties qu'il a données, je m'attends néanmoins à un glissement du calendrier électoral.
Mais si la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter, pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument qu'il le dise, lui?
Alors, c'est très simple. Vous savez que du 25 juillet au 8 août, en principe, c'est le dépôt officiel des candidatures pour la présidentielle. En tant que président en exercice, il peut ne pas se sentir lié par cette disposition, car elle oblige sa famille politique à désigner un successeur. Or, il n'a pas, lui, intérêt à le faire politiquement, car ce serait suicidaire. Il va donc jouer sur le temps et multiplier, selon moi, les artifices pour que le glissement, que certains craignent, se déroule néanmoins au-delà du 23 décembre.
C'était Henri-Désiré Nzouzi, consultant et analyste politique joint à Bruxelles.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou?
Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Nous attendions vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
En Centrafrique, la suspension des activités de Médecins sans frontières à Bria, dans le centre-est du pays, se fait sentir sur place. Des cas de décès d'enfants dus au paludisme sont déjà enregistrés sur le site du PK3 où sont massés plus de 40 000 déplacés. L'eau potable devient une denrée rare. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
La ville de Bria, contrôlée depuis plusieurs mois par des groupes armés, échappe au contrôle de l'État. Les attaques ciblées contre des humanitaires et des opérateurs économiques y sont devenues monnaie courante. Début juillet, la base locale de MSF a été pillée et le personnel brutalisé. Cette énième agression a poussé l'organisation humanitaire à suspendre ses activités dans la ville. Deux semaines seulement après ce retrait, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Des cas de décès des enfants sont signalés sur le grand site des déplacés de PK3 et dans les quartiers. À l'hôpital, le médecin-chef s'inquiète, Dr Jean-Mathias Amadou.
Sur la semaine allant du 9 au 15, nous avons consulté près de 72 enfants. Mais contrairement aux statistiques qu'on avait avant, avec la présence de Médecins sans frontières, c'était plus que ça. D'où on s'inquiète. On s'inquiète du fait qu'il n'y a plus de référence de la périphérie à l'hôpital et surtout de PK3 à l'hôpital. Ce qui veut dire que les enfants qui ont des problèmes de santé dans ces coins, en périphérie de la ville et dans les sites de déplacés, ces enfants sont soit traités par les charlatans, sont soit pris en charge par des personnes non qualifiées.
Sur le site des déplacés du PK3, avoir de l'eau potable n'est plus une mince affaire. Pour en avoir, il faut des heures de bousculade. Cette femme s'en plaint.
Na PK3, ils vivent conséquences nimingi.
Ici, sur le site de PK3, nous souffrons sérieusement. Nous demandons à la MINUSCA de nous prêter main forte concernant nos besoins sanitaires et en eau potable. Nous sommes très attristés avec le départ de MSF. Nous sommes vraiment en détresse. Pour avoir de l'eau, il faut faire la queue le matin jusqu'à 14h, voire 17h, 18h. C'est très pénible.
D'après jusqu'à 14h, il est à 17h, à 18h.
Depuis la suspension des activités de MSF, seule l'ONG Oxfam fournit de l'eau aux déplacés. Elle doit désormais faire face à un afflux de personnes dans le besoin, des personnes venues des 16 blocs du site. En mission en République centrafricaine, Wan Liu, présidente internationale de MSF, annonce des dispositions en cours pour la reprise des activités de l'organisation humanitaire à Bria.
C'est avec déchirement qu'on a retiré nos équipes et présentement nous sommes en réflexion pour voir quelles seraient les conditions pour un retour. Donc voilà, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est des choses qu'on ne fait jamais à la légère et on en a discuté avec le ministre de la Santé et nous essayons de trouver l'adéquation pour un retour.
En 2017, MSF a réalisé près de 50 000 consultations et pris en charge plus de 350 blessés dans la ville de Bria. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général mauritanien Anena Ould Sidi est désormais le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel, une force créée pour lutter contre les groupes terroristes dans le Sahel. Il remplace le général malien Didier Dako et cette nomination avait été décidée par les 5 chefs d'État de la zone et le président Macron au lendemain de l'attaque terroriste contre le commandement de la force à Sévaré au Mali. C'était le mois de juin dernier. Pourquoi le choix du général mauritanien? Pour une réponse, Bagassi Koura a joint à Nouakchott Mohamed Diop. Il est le rédacteur en chef du journal Al Akhbar.
C'est le cœur du G5 Sahel qui a été attaqué, donc il fallait qu'il y ait un changement. Et que dans ce changement, il y a la France et la Mauritanie qui ont vraiment profité de la situation. Parce que la Mauritanie était réputée, ou de toute façon, ce qu'on disait dans les coulisses, que c'est un pays qui était réticent, qui doutait un peu. Donc la France avait besoin de lui confier ce commandement pour l'engager davantage. Mais également, il y a la Mauritanie qui voulait montrer aux yeux du monde qu'elle est capable non seulement de diriger le G5 Sahel, mais également d'être leader dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un général déjà qui avait dirigé les renseignements extérieurs, militaires bien sûr. Donc ça veut dire que quelque part, c'est l'homme qu'il fallait de toute façon pour la Mauritanie pour occuper cette place après le départ du Malien allié de la côte. Donc je pense que c'est un général qui a vraiment de l'expérience.
Parmi les cinq pays du G5, la Mauritanie est l'un des pays qui a su combattre le terrorisme. Est-ce que ça aussi c'est une expérience qu'il apporte dans cette mission-là?
Oui, parce que on sait que la Mauritanie est dans cette zone du Sahel, de façon qui est en proie au terrorisme. Et qu'il n'y a presque pas un pays qui n'a pas frappé ces dernières années. Et la Mauritanie, de toute façon, a resté une exception. L'exception, c'est que depuis 2011, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Mauritanie. Et beaucoup parlent de l'expérience mauritanienne dans la lutte contre le terrorisme. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est une chance pour la Mauritanie de prouver que non seulement elle sait gérer ses frontières, mais au-delà également de ses frontières, elle arrive à vraiment diriger cette guerre contre le terrorisme.
Comment est-ce que la Mauritanie est parvenue à contrôler les groupes djihadistes sur son territoire?
Il y a le renforcement déjà de son armée, les effectifs, la formation, il y a donc cette mise à niveau. Il faut le rappeler que le président Mohamed Ould Abdelaziz a été dans l'armée. Donc forcément, il a travaillé dans ce sens-là. Et ce qu'on peut retenir dans ça, c'est-à-dire le niveau de l'armée mauritanienne qui a été renforcé et les formations et tout. Mais également un peu, si on peut dire qu'au nord du Mali, c'est une continuité un tout petit peu des populations en termes de langue et de culture vers l'est de la Mauritanie. Donc c'était plus simple pour l'armée mauritanienne de collecter des renseignements parce qu'en comprenant la pensée, la culture des populations sur place.
C'était Mohamed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar, joint à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Après la saturation des marchés européens, les trafiquants de drogue dure ciblent l'Afrique, entraînant une augmentation du nombre de consommateurs sur le continent. D'où l'ouverture au Sénégal, il y a 3 ans, du tout premier centre ouest africain de réhabilitation des toxicomanes. De Dakar, le récit de le reportage de Sophia Christensen, rendu ici par Lionel Gaïma.
Omar a goûté à l'héroïne pour la première fois dans les années 1980, alors qu'il était étudiant à Paris. De retour au Sénégal, ce quinquagénaire note que l'héroïne et la cocaïne ont fait une incursion dans son pays.
J'ai connu l'héroïne en France. Le gars avec qui tu parlais également, il a connu l'héroïne en France. Mais moi, je suis un peu âgé, certainement. Ce n'est pas le cas d'un jeune qui a 25 ans ou 27 ans qui a connu l'héroïne ici. Vous comprenez? Moi, j'ai connu l'héroïne en Occident. Mais les jeunes ne connaissent pas l'héroïne en Occident, mais ici. Ils le trouvent ici. Ils le voient ici.
De l'avis des experts, la consommation des drogues dures en Afrique tend à supplanter celle du cannabis, jusqu'ici la substance la plus répandue. 1,8 million de personnes consommaient de la cocaïne en 2016 en Afrique centrale et de l'Ouest, estime l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Selon Pierre Lapague, représentant régional de cette agence, le Sénégal est un pays de transit de la drogue provenant de l'Amérique latine et destiné à l'Europe. Les barons de la drogue tentent de créer de nouveaux marchés en Afrique, explique l'expert onusien.
Un consommateur de drogue, quelle que soit cette drogue, est généralement un homme de moins de 25 ans, généralement d'une couche, une couche sociale moyenne ou moyenne inférieure. Or, si vous voulez, en Afrique, il y a 1 milliard d'habitants, il y aura 2 milliards dans quelques décennies, 50% de cette population est par nature des hommes, et la classe émergente, c'est justement cette classe-là, la classe sociale émergente, c'est celle-là.
Au CEPIA de Dakar, des infirmières pèsent des patients et font des prélèvements de sang. Lancé en 2015 et subventionné par l'État sénégalais, c'est le tout premier centre ouest-africain de traitement de la toxicomanie, est le seul habilité à administrer de la méthadone. Le CEPIAD a déjà accueilli plus de 2000 patients, souligne son directeur Idriss Abba.
Et le profil s'est beaucoup diversifié aussi. De plus en plus, nous recevons des jeunes. Nous recevons aussi, en quantité, peut-être en nombre faible, relativement faible, des femmes aussi qui ont des problèmes avec ces substances psychoactives.
Cette année, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé un cours en vue d'aider les travailleurs de la santé à identifier les différentes formes de toxicomanie et y répondre. Le docteur Adama Koundoul, directeur d'un hôpital psychiatrique de Ziguinchor, dans le sud du pays, suit au cours.
Bien sûr, la particularité de Ziguinchor, c'est en fait une région carrefour. C'est une région qui est enclavée entre deux grands pays, deux autres pays, la Gambie, la Guinée-Bissau, aussi bien aussi, donc la Guinée-Conakry.
Pour la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Maurice qui l'a mise en onde et également à Patrick Deya à la console. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en contact avec nous sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.